Le journal des sciences.
Et pour commencer, on revient tout d'abord sur les deux séismes qui ont secoué le Mexique les 7 et 19 septembre dernier, qui confirment les spécificités géologiques du sous-sol de cette région, Zoé.
Oui, alors on connaît depuis longtemps la situation géologique de la région, qui est très propice au séisme, puisque Mexico, on le sait, est à l'aplomb d'une zone de subduction, c'est-à-dire que c'est l'une de ces régions du globe où il y a une plaque océanique qui plonge sous le continent, dans le manteau de la Terre. Et la Terre a tremblé deux fois ce mois-ci au Mexique, donc une première fois dans le sud du pays, dans la région d'Oaxaca, avec des secousses de magnitude 8,2, c'est beaucoup. Puis à nouveau, donc le 19, c'était mardi dernier, cette fois à 120 km de la capitale Mexico, avec une amplitude moindre, 7,1 sur l'échelle de Richter, mais qui a fait plus de victimes. On a 225 morts selon le dernier bilan, puisqu'en fait l'épicentre de ce séisme était beaucoup moins profond, il était seulement à une soixantaine de kilomètres de la surface. Deux tremblements de terre évidemment qui ont renvoyé toute la population de la ville à celui de 1985, qui avait fait 10 000 morts à Mexico, et qui s'était produit, c'est ça qui est fou, 32 ans jour pour jour auparavant. Et pourtant, ces deux séismes qui se sont produits en septembre n'ont pas grand-chose à voir, géologiquement parlant, si on peut dire, avec celui de 1985. C'est ce que m'a expliqué Paul Earle, il est sismologue à l'UCGS, le très puissant institut géologique américain qui surveille toute la région et qui a équipé tout le Mexique en sondes sismiques.
These two earthquakes are not what you typically see.
Ces deux séismes ne sont pas des séismes tectoniques classiques. Dans la plupart des cas, quand on est dans une zone de subduction, les séismes se produisent aux limites de deux plaques. En l'occurrence, dans cette région, on a la plaque océanique Cocos qui est en train de passer en dessous de la plaque nord-américaine. Et les plus gros séismes qu'on ait connus, comme celui très meurtrier qui a touché Mexico il y a 32 ans, se produisent en général à la limite de ces deux plaques, et donc au large des côtes. Mais là, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Les deux séismes qui ont eu lieu au Mexique ces derniers jours se sont produits au sein même de la plaque Cocos, celle qui est en train de bouger sous la plaque nord-américaine. Comme elle est en train de bouger, elle est très tendue, et c'est ce qui a provoqué ces séismes. Pour mieux comprendre, imaginez que la plaque Cocos est un petit bâton de bois et que vous êtes en train de le plier. Plus vous le pliez, plus il y a de tension dans la partie haute du bâton et il finit par se briser en de multiples petites brèches. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux séismes sont des brèches dans la plaque Cocos.
Voilà, alors ces deux tremblements de terre confirment que la zone de subduction entre cette fameuse plaque Cocos et la plaque nord-américaine se fait en fait de manière assez inédite, puisqu'il y a donc Cocos qui plonge, mais à un angle très très faible. Elle plonge sous la plaque nord-américaine, presque à l'horizontale, d'où les grandes tensions intra-plaques, c'est ça le terme qu'on utilise, et ces deux séismes. Mais deux séismes qui soulèvent aussi de nombreuses questions, hein. Ils confirment cette théorie, mais l'une des questions qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces deux séismes ont eu lieu, est-ce qu'ils sont connectés ou non, parce qu'en effet, il est très rare d'avoir deux séismes qui surviennent à plusieurs centaines de kilomètres et à plus de deux semaines de distance, comme le note Robin Lacassin de l'Institut de physique du globe de Paris.
Est-ce que c'est une coïncidence? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que le premier séisme a en quelque sorte déclenché le suivant? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on a un gros séisme, ça perturbe les forces autour de la faille qui a rompu à des distances de quelques centaines de kilomètres. Donc ça peut se calculer. Là, on est plutôt trop loin. La distance entre les deux séismes, si on fait ce genre de calcul, la perturbation du premier séisme est extrêmement faible et a priori pas à même d'avoir déclenché le deuxième. Donc si ça se trompe, c'est une pure coïncidence. Et puis, les questions se posent beaucoup de géologues, sismologues, etc. C'est quelle est l'interaction entre ce type de séisme, donc qui casse la plaque elle-même, à l'intérieur de la plaque, et les grands séismes qui sont encore de magnitude encore supérieure, et les grands séismes sur l'interface de subduction, qu'on appelle les méga-chevauchements. Et ça, c'est des questions ouvertes. On ne sait pas encore est-ce que les séismes du type d'aujourd'hui peuvent retarder ou avancer, changer la magnitude des séismes futurs sur cette interface. Donc ça, c'est une question scientifique ouverte et évidemment, on va travailler là-dessus.
Et en bref, les laboratoires BioGarant, filiale du groupe pharmaceutique Servier, a annoncé mercredi qu'il va remettre sur le marché son ancien générique du Levothyrox, le médicament qui est administré en cas d'hypothyroïdie, d'ici deux mois et demi, donc pour fin 2017. Plus de 63 plaintes contre X ont été déposées par des patients contre la nouvelle formule de ce médicament qui a été mise sur le marché depuis le printemps dernier et qui serait à l'origine de nombreux effets secondaires lourds. Et enfin, une enquête de la Société française de la dermatologie parue hier indique qu'un tiers des Français souffrent de maladies de la peau, avec en tête évidemment l'acné, puis l'eczéma, suivi de la dermite atopique, maladie qui générerait, c'est un chiffre intéressant, chez 54% d'entre eux, une grande souffrance psychique due notamment à l'isolement social que ces maladies génèrent.
Deuxième sujet cette semaine, Zoé. Dans un rapport paru ce mercredi, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre un très grave manque de nouveaux antibiotiques et appelle à prendre la mesure de cette urgence sanitaire.
L'OMS, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la résistance aux antibiotiques en publiant en février dernier la liste des 12 familles de superbactéries contre lesquelles il est urgent de développer des nouveaux traitements, au premier rang desquels figurent toutes les bactéries qui causent la tuberculose. Bactéries résistantes aux antibiotiques qui pourraient tuer jusqu'à 10 millions de personnes par an d'ici 2050, soit autant que le cancer. Or, le rapport qui est paru ce mercredi montre que la recherche en matière d'antibiotiques est totalement délaissée par les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils ne rapportent pas assez d'argent, les antibiotiques. Les laboratoires leur privilégient notamment les traitements contre des maladies chroniques qui sont plus lucratifs, et que la recherche est beaucoup trop en retard. Sur 51 nouveaux produits antibactériens qui sont aujourd'hui en développement clinique recensés par l'OMS, seuls 8 sont jugés innovants selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Tous les autres ne font que développer des agents dont on sait qu'ils généreront très vite des résistances. Il faut tout revoir dans notre manière d'appréhender les bactéries, explique Jean-Pierre Pacot. Il dirige le Global Antibiotic R&D Partnership, qui est un organisme de recherche sur les antibiotiques qui travaille avec l'OMS sur la question.
Le génome de la bactérie, qui est un être vivant extrêmement résistant, puisqu'il est sur la planète depuis 4 milliards d'années, ça veut dire qu'il a à peu près optimisé une quantité faramineuse de processus pour être capable d'envahir toutes sortes de milieux. Donc, d'une part, les classes d'antibiotiques actuelles, en fait, il y en a très peu. C'est étonnant, mais en fait, on a peu, disons, de cibles que l'on a identifiées chez les bactéries qui permettent de les contrôler. On a des agents qui vont, par exemple, interférer avec la synthèse des protéines. Il y a des agents qui vont agir directement sur la paroi de la bactérie, donc c'est par exemple les pénicillines. Mais finalement, il s'avère qu'on n'a pas une multiplicité de cibles thérapeutiques. On parle de modes d'action, d'activité sur la paroi ou sur la synthèse protéique. Ça, c'est des modes d'action. Encore une fois, trouver de nouveaux modes d'action s'avère extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on l'imaginait. Et la nouveauté viendrait de nouveaux modes d'action, parce que là, finalement, les thérapeutiques qui cibleraient ces nouveaux modes d'action pourraient ne pas être soumis immédiatement à des résistances préexistantes. Ça montre bien qu'il faut réinvestir dans la recherche fondamentale, parce qu'on ne connaît pas assez.
L'OMS qui préconise donc plus de 800 millions de dollars par an d'investissement dans la recherche publique pour trouver de nouveaux médicaments. Et en bref, cette découverte surprenante en Australie, des biologistes marins ont découvert dans la baie de Jarvis une ville de poulpes, des poulpes Treticus dont on pensait qu'ils vivaient en solitaire, en ermite. Ici, il y a plusieurs dizaines d'individus qui communiquent, qui résident ensemble. Cette ville a été baptisée Auclantis par les chercheurs et elle tend à prouver que les invertébrés, eux aussi, peuvent vivre en société. Autre découverte importante pour comprendre cette fois les origines de la vie, des traces fossiles d'environ 500 millions d'années retrouvées au Brésil, des mini-terriers creusés par des vers pas plus larges qu'un cheveu humain. Selon les chercheurs, ces petits animaux auraient été les tout premiers à pouvoir onduler pour pouvoir se frayer un chemin à travers les sédiments. Et enfin, dans notre rubrique Science Improbable, cette superbe innovation si chère à vous, Nicolas Martin, vous nous en avez beaucoup parlé, que l'on doit à la firme Nippon Next Technology, qui nous donc présente ce chien renifleur de pied, un chien robot qui se prénomme Hana-chan, joli petit nom, qui mesure 15 cm de long et qui, après avoir respiré vos pieds avec sa truce artificielle, se prononce en adoptant des postures différentes en fonction du niveau de puanteur ressenti. Il s'accroupit si vos pieds sentent bon et il va jusqu'à s'effondrer littéralement si la pestilence est insupportable. Alors quel intérêt de ce robot si on a un nez qui fonctionne ? On ne sait pas trop. On sait en revanche que la prochaine version de ce chiot sera capable de pulvériser du déodorant. Quelle belle nouvelle.
Oui, et puis on est à deux doigts de la performance artistique, ce qui me permet de faire une transition parfaite. Merci beaucoup Zoé Sfez, on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences.